Europe 1. Seconde partie, spiritisme à la vapeur. Nous avons laissé Harry Houdini lors de sa spectaculaire évasion d'une cellule de la prison centrale de Chicago. Bien sûr, lorsqu'il a fait cette démonstration, il a été mis à nu, fouillé, puis on l'a abandonné vêtu d'une simple culotte, couvert de chaînes et de cadenas. La porte blindée a alors été refermée, policiers et journalistes attendent dans le bureau voisin. 3 minutes plus tard, Houdini se présente à eux triomphal. Le lendemain, bien sûr, il fait la une des journaux. Il est le roi des menottes, le roi de l'évasion. Houdini, maintenant, a une revanche à prendre sur ses années de galère. Nous sommes en 1899, il n'a que 25 ans. Il se marie avec une collègue rencontrée en tournée et qui devient à la fois sa muse et son assistante. Physiquement, il est au sommet, rompu aux sports extrêmes, courses de fond, natation, boxe. Depuis plusieurs années, il est même champion de cross-country. Son énergie et son ambition lui donnent la certitude qu'il peut relever les défis les plus invraisemblables. Après l'Amérique, l'Europe veut avoir le privilège de recevoir le magicien. Mais Houdini ne veut pas subjuguer les foules sans faire intervenir le monde politique, journalistique et judiciaire. Il veut une gloire validée officiellement, une gloire contrôlée par huissier. Dès le début des années 1900, il va être celui dont les tours de magie sont frappés du sceau de la rationalité. Il sait en outre qu'on conquiert plus facilement les foules quand on a conquis ses édiles, ses élites. L'Angleterre l'invite. Il demande à être mis à l'épreuve par Scotland Yard, ni plus ni moins. Il manifeste chez eux un humour digne de ses hôtes. Un officier a entrepris de l'enchaîner à une colonne. Une fois le cadenas bouclé, il déclare à Houdini qu'il viendra le chercher d'ici une heure. Mais à peine a-t-il tourné les talons, Houdini lui tape sur l'épaule.
« Attendez, je viens avec vous. »
Parmi les entraves dont il fait contrôler la conformité avant d'en être chargé, il s'en trouve une qu'il a décidé d'ajouter à sa panoplie, la camisole de force. Inventée à la fin du siècle précédent, il en a découvert le sinistre usage lors de sa visite dans un hôpital psychiatrique de Nouvelle-Écosse. Dès 1901, pas une semaine ne passe sans qu'un nouvel exploit d'Houdini ne fasse la une des journaux. Le magicien, qui est à présent connu dans l'Europe entière comme escapologue, redouble d'imagination pour rendre ses évasions toujours plus impensables.
Il se libérait en un temps record des menottes, chaînes et fers qui lui enserraient bras et jambes. Il fut le premier à pouvoir s'échapper d'une camisole de force non truquée. On le ligota sur le dos d'un cheval lancé au galop. On l'attacha avec une corde goudronnée. On l'enroula dans un drap mouillé. En Hollande, on l'enchaîna aux ailes d'un moulin à vent qui tournait. Il se libérait toujours, parfois même, souvent, avec quelques contusions. On le lia à une potence, on le suspendit par les pieds, le corps pris dans une camisole de force. Il s'en dégageait encore. On l'enferma dans des caisses, des malles, des coffres-forts, des cercueils. Il fut claustré dans une malle de carton fermée par un cachet de cire, dans un sac postal contrôlé de façon analogue. Il fut reclus dans une chaudière de marine soigneusement cadenassée. Il parvenait toujours à se délivrer.
Cette succession de prodiges contribue au fil du temps à parer Houdini de capacités surnaturelles. On est depuis la fin du XIXe siècle à la grande époque des médiums, voyants et spirites. Houdini se défend de faire partie de cette catégorie, qu'il considère comme l'imposture absolue. Ses tours à lui sont rationnels. Pourtant, son regard étrange, la manière stupéfiante dont il parvient à envoûter l'assistance, peut donner à penser qu'il y a là quelque entreprise occulte associée à des forces invisibles. Mais il n'en est rien, et la plupart du temps, les secrets de ses tours sont d'une incroyable trivialité. Il y a dans le monde de la magie un terme qui désigne le fait de dévoiler le secret d'un tour, le débinage. Normalement, un magicien prête serment de ne rien dévoiler des mystères de la profession. Voilà qui excite davantage notre curiosité devant les prodiges accomplis par Houdini. Comment fait-il en effet pour faire disparaître un éléphant sur scène, pour se libérer d'un pot de lait rempli à ras-bord et fermé à quatre verrous? Et summum du mystère, comment peut-il, sur scène, devant des centaines de spectateurs, traverser un épais mur de briques construit au vu de tous? Les magiciens d'aujourd'hui ont bien d'autres techniques que celles d'Houdini, qui sont vieilles d'un siècle. Alors on n'offensera personne en dévoilant ici le secret des tours que je viens de citer. La disparition de l'éléphant, ou plutôt en l'occurrence de l'éléphante, puisque c'était une femelle nommée Jenny, elle est subordonnée, cette disparition, à un procédé exclusivement technique. Houdini commence par jeter un drap blanc sur l'animal. Le cirque est plongé dans la pénombre. Il a un pistolet en main. Il lève le bras, tire une cartouche à blanc. Au même moment, il tire sur le drap. Hop, il n'y a plus d'éléphant. Eh bien, le truc est assez simple. Il y a en fait deux draps, un noir placé sous le blanc. Le fond sur lequel est positionné l'éléphant est noir. Au moment où Houdini tire le coup de feu, il compte sur le fait que le public, une fraction de seconde, cligne des yeux. À ce moment, il a retiré le drap blanc, laissant le noir sur l'animal qui, dans la pénombre, se confond avec la paroi qui est derrière lui. Pour ce tour, Jenny a été entraînée à rester absolument immobile. Le moindre petit mouvement de trompe, et alors Houdini sortirait du cirque sur un rail couvert de goudron et de plumes. Le procédé du pot au lait, maintenant, il est encore plus simple. Le public se concentre sur les assistants, occupés à serrer les verrous qui ferment le pot. Mais le couvercle est faux. La jointure est située plus bas. Et Houdini, dans la pénombre, peut s'en extraire sans effort. Le numéro du passe-muraille est quant à lui si trivial qu'on se demande comment il a pu subjuguer le public. Le spectacle commence. Des assistants devant le public construisent un mur de briques perpendiculaire au fond de scène pour que tous puissent voir l'un et l'autre côté de l'obstacle. Auparavant, Houdini, pour prouver qu'il n'y a aucune trappe sur scène, a fait étendre un grand tapis. Le mur est construit. Grand silence. Houdini s'avance vers le mur côté cour, puis soudain il réapparaît côté jardin. Mais comment a-t-il pu faire ça? Élémentaire, mon cher Watson, c'est précisément sous le tapis qui était destiné à exclure la possibilité d'un passage sous la scène que se situe une trappe. La force d'Houdini réside non seulement dans sa virtuosité quand il s'agit de se libérer de chaînes, mais aussi dans sa capacité à mettre en scène ses tours. Dans cette entreprise, il n'est pas seulement magicien ou escapologue, il est aussi ce qu'on appelle un mentaliste. Il connaît les paramètres qui régissent le psychisme de tout un chacun et sait très habilement utiliser son accessibilité à l'étonnement et au merveilleux. Son métier lui a appris que plus un tour est simple, plus il faut l'entourer de mystères. Une mise en scène grandiose permet immanquablement de faire oublier les principes les plus élémentaires. C'est donc tout naturellement qu'Houdini, qui n'a plus rien à prouver, va s'attaquer à un problème qui lui tient particulièrement à cœur, le spiritisme. La société occidentale est alors littéralement envahi de médiums en tout genre. Le spiritisme, en tant que tel, lui est apparu aux États-Unis en 1848. Les premières tables se sont mises à tourner dès la décennie suivante à Paris. Victor Hugo, Robert Schumann et Napoléon III lui-même se mettent à fréquenter les spirites. Dans les salons de Saint-Germain-des-Prés, on assiste à un incroyable prodige. Douglas Home s'élève à 1 mètre au-dessus du sol devant l'impératrice Eugénie Médusée. En Autriche, on fait apparaître la main de l'empereur Napoléon Bonaparte. Les dames tombent à genoux. baise en tremblant cette main venue d'outre-tombe et qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue, dans une nuée éclaboussée de lumière. Ces pratiques mettent Houdini en rage. Il croit, enfin il sait très bien que tout cela n'est qu'imposture. Il organise une série de spectacles aux États-Unis où il démasque ses spirites en montrant qu'il peut faire aussi bien qu'eux par des procédés simplement techniques. Son prestige en tant que magicien lui donne toute légitimité pour exiger de contrôler lui-même ceux des médiums les plus connus et qu'il veut démasquer coûte que coûte. Parmi eux, une certaine Mina Crandon, surnommée Marjorie, prétend converser avec son frère mort. Durant les séances, une sonnette, dissimulée dans une boîte hermétiquement fermée, répond aux questions de la médium, tintant tel ou tel nombre de fois en fonction des questions posées. Houdini, jusque-là, s'est contenté de vitupérer, sans pour autant chercher à démasquer l'imposture. Mais il sort de ses gonds quand il apprend que la revue scientifique américaine à laquelle il est associé s'apprête à verser à Marjorie 5 000 $ pour récompenser ses travaux. Alors cette fois, c'en est trop. Houdini exige de contrôler lui-même une séance de la jeune femme. S'il la confond, le scientifique américaine s'engage à ne pas verser la prime. Durant les séances, Marjorie est entourée de deux personnes. Elle tient la main à chacune d'entre elles. La boîte contenant la sonnette est posée d'ordinaire à sa gauche, à côté de sa chaise. Houdini se propose d'être l'une des deux personnes qui lui tiennent la main. Il soupçonne que Marjorie actionne la boîte contenant la sonnette avec son pied, au plus fort de sa prétendue transe. Lors d'une première session, Houdini remarque que Marjorie est capable, tout en gardant les mains et les bras rigoureusement immobiles, de faire basculer sa chaise au point que l'un des barreaux reliant les pieds vienne appuyer sur la boîte à sonnette placée en dessous. Tout cela reste parfaitement invisible au public. Ces séances se passent toujours dans la pénombre. Houdini, qui a constaté la fraude, demande à Marjorie que la boîte à sonnette soit placée sous sa chaise à lui. Elle accepte. La veille de la session suivante, Houdini s'inflige une douloureuse préparation. Dans le but de rendre son mollet sensible au moindre frôlement, il se pose un garrot sur le mollet. Le lendemain, il se présente pour la séance. Il demande à garder sa jambe de pantalon relevée. Marjorie accepte. On commence l'expérience. Durant de longues minutes, Houdini, concentré sur les sensations de sa jambe, est aux aguets. Soudain, lorsque Marjorie manifeste des signes de transe et serre la main des deux hommes de toutes ses forces, il sent un léger frôlement du pied de la jeune femme. Il est clair qu'elle essaye d'accéder à la boîte à sonnette. L'affaire est pliée. Pour Houdini, Mina Crandon est un imposteur comme tous les autres. L'affaire va défrayer la chronique. Partout en Amérique, les associations de spirites se liguent contre ce magicien qui vient saper les bases de leur profession. Conan Doyle, déjà célèbre pour ses aventures de Sherlock Holmes, veut absolument rencontrer Houdini. L'auteur du Chien des Baskerville est en effet un adepte inconditionnel du spiritisme. Alors ils se rencontrent et ils vont devenir amis. Houdini ne veut pas s'aliéner la fréquentation d'un auteur aussi prestigieux. Il explique que s'il veut démasquer les spirites, ce n'est pas tant qu'il ne croit pas aux esprits, mais que bien au contraire, c'est parce qu'il prend la chose très au sérieux qu'il veut démasquer les faussaires. Il propose à Conan Doyle de prouver que lui, Houdini, peut aussi lire dans les âmes. Lors d'une séance mémorable, Houdini va demander à son ami d'écrire quelques mots sur un billet, dans la rue, puis de revenir chez lui. Auparavant, un tableau est pendu au plafond. Deux boules de liège sont disposées sur une table. L'une d'elles est trempée dans de la peinture blanche. Houdini la pose sur le tableau. La boule se déplace seule. Et écrit précisément les mots qui se trouvent sur le papier détenu par Conan Doyle. Il est sidéré. Pourtant, ce tour était assez simple. Lorsque Conan Doyle est revenu, tenant son petit papier, Houdini lui a demandé à vérifier qu'il était bien plié. Et il lui a rendu un autre papier plié de la même façon. Tandis qu'Houdini, subrepticement, lisait le premier papier, il en communiquait le contenu par code à son assistant placé derrière le tableau. Ce dernier tenait en main la deuxième boule de liège dont le cœur était en fer aimanté. Il n'y avait plus pour les deux hommes qu'à se coordonner, à coordonner leurs gestes, pour que les deux boules se rencontrent au même endroit sur le tableau. Cette expérience ne va pourtant pas éteindre la flamme spirit de Conan Doyle, mais elle va contribuer à brouiller les deux hommes et à achever de mettre Houdini au banc des associations de spirites du monde entier. Le magicien approche maintenant de la cinquantaine. Il ne sait pas que l'heure est proche où aucun tour de magie ne pourra plus le sauver de la jalousie et de la méchanceté des hommes. Un jour, alors qu'il est en coulisses, un étudiant se présente à lui. Il lui demande s'il est vrai qu'il peut encaisser les coups de poing dans le ventre sans broncher. Houdini, pris au dépourvu, dit que oui, il peut le prouver. Le coup qu'il reçoit en plein abdomen est, selon les témoins présents, d'une extrême violence. Quelques jours plus tard, une péritonite se déclenche et le 31 octobre 1926, Harry Houdini s'éteint. Lors de son enterrement, on rapporte qu'un notable souffla à son voisin. « Je vous parie qu'avant une heure, ce cercueil sera vide. » C'est la fin de cet épisode consacré à Houdini, le magicien, le roi de l'escapologie. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Victor Nolot. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend bien sûr sur le site d'Europe 1. À très bientôt.